Je vous propose d'entendre la lecture de la Bible dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14, ensuite au chapitre 16. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de très grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Alors quelques-uns des disciples de Jésus exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre pour plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Et donc un peu plus loin, au chapitre 16, l'ensevelissement dont parle Jésus, et avec encore quelques femmes. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau et elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a annoncé. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le psaume 118 dans le psautier français. Les strophes 1, 5 et 6 de ce psaume, « Célébrez Dieu, rendez-lui grâce », le psaume 118. Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le pain que nous avons à manger, pour ces frères et sœurs que nous avons pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos Écritures, une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux, une parole qui fait de nous ton enfant. Alors n'est-ce pas étonnant ce que Jésus dit de cette femme ? Partout où l'Évangile sera prêché, dans le monde entier, pour toujours, on racontera aussi ce qu'a fait cette femme. C'est étonnant qu'un simple gaspillage d'un peu de parfum soit ainsi comparé à l'Évangile du Christ. Mais c'est même encore plus que cela, car Jésus nous dit que le geste de cette femme doit être même ajouté à l'Évangile. Et que partout où l'Évangile sera annoncé, il faudra aussi raconter le geste de cette femme pour bien comprendre finalement l'Évangile, comme pour compléter l'Évangile. Comme si ce que le Christ avait dit, ce qu'il avait fait, y compris les événements racontés pour ce que nous célébrons cette semaine partout dans le monde, la croix, la résurrection, tout cela ne suffisait pas pour dire l'essentiel finalement. Qu'il fallait y ajouter le témoignage de cette femme, de ce petit geste. Alors comment comprendre cela ? Qu'est-ce que le geste de cette femme ajoute à la résurrection ? Ou en quoi est-ce que ça éclaire finalement le salut que Dieu nous donne en Christ, cette résurrection qu'il veut nous donner ? La première raison possible que je vois dans l'importance de ce geste, c'est que ça a été historiquement essentiel pour Jésus. Dans sa mission particulière, et que peut-être ce geste a rendu possible la suite. La seconde raison que je vois à l'importance de ce geste, c'est que le geste de cette femme serait comme une clé indispensable pour comprendre, pour interpréter ce qui se passe à Pâques. Ce serait un petit peu le mode d'emploi, finalement, de l'Évangile. Alors pour Jésus, le geste de cette femme a pu être effectivement important. C'est ce que nous dit l'Évangile, qu'elle lui a fait du bien finalement. Alors c'était certes sa mission de manifester le prix que chaque personne a aux yeux de Dieu, l'attachement du Père pour ce monde et pour chacun de ses enfants en particulier, même ceux qui sont un peu moyens finalement. Mais souvent, les Évangiles nous montrent que Jésus est un peu désespéré. Désespéré devant ces pharisiens intégristes. Désespéré devant ces disciples qui ne comprennent rien à rien. Devant ces personnes qui, à peine 2 secondes après avoir entendu le pardon de Dieu, trouvent normal de ne rien laisser passer à leurs frères et sœurs. Mais en cette femme qui, vraiment, nous dit Jésus, a fait ce qu'elle a pu, il y a de quoi être touchée. Il y a de quoi être réconciliée avec l'humanité et se dire, ben finalement, c'est peut-être pas si mal parti que ça. Oui, quand on voit cette femme faire ce qu'elle peut, malgré les gens qui la critiquent, qui se moquent, malgré le ridicule un peu de son geste, on sent que l'humanité en vaut la peine, qu'il y a une vraie sincérité, qu'il y a quelque chose de profondément touchant dans l'humanité. Alors c'est vrai qu'il y a tant de péchés, de faiblesses, de mensonges, de colère, de mauvaise humeur. Il y a tant de rancœur, de mauvaise volonté de faire du mal, de brutalité. Oui, c'est vrai. Mais un seul geste de bonté gratuite, un seul geste de gratitude, un seul geste de sincérité finalement, un seul geste de tendresse reconnu peut nous réconcilier avec la vie en ce monde et nous réconcilier avec l'humanité. Et pour peu qu'on y fasse un peu attention, il y a mille occasions de s'émerveiller ainsi dans notre vie de tous les jours, mille occasions de se dire en regardant quelqu'un un petit geste, comme c'est touchant. Et de se sentir plus joyeux, réconcilié avec la vie, réconcilié avec l'humanité. Tenez, hier par exemple, on avait ici la nuit de l'éthique que nous avons organisée avec Olivier Abel. Bon, c'est un défi qui peut paraître un peu idiot de passer une nuit à faire de la philosophie. Eh bien, en entrée de cette nuit, nous avions la chance d'avoir un des meilleurs sonneurs de trompe de chasse de France. Ce sonneur de trompe de chasse n'a absolument rien à voir avec l'oratoire. Il est dans la garde républicaine. C'est son travail de faire de la musique. Il est juste venu bénévolement comme ça, parce qu'il est ami d'amis de Francine, voilà, il est venu comme ça, alors qu'il n'avait aucun rapport, aucune raison de venir, juste pour rendre service, juste pour le geste, avec humilité, alors qu'il est un des meilleurs de France. Alors n'est-ce pas touchant? Je ne sais pas. Moi je trouve que c'est touchant, je trouve que des petits gestes comme ça, eh bien, réconcilient avec l'humanité, c'est fort peu de choses. C'est pas seulement trois notes de trompe de chasse qui ont alors un peu embelli le monde, mais c'est le geste finalement. Et c'est notre étonnement touché de voir simplement quelqu'un faire ce qu'il peut. Et ça embellit le monde et ça réconcilie avec cette si touchante humanité. Telle autre personne était inscrite pour cette nuit de l'éthique, pour suivre donc des leçons de philosophie. Et finalement, a passé la nuit tout entière à servir des biscuits, à faire de la soupe, à vider les poubelles, je ne sais pas quoi. À gérer de l'intendance finalement, un peu comme Marthe dans les évangiles ou un peu comme cette femme avec un peu de parfum. N'est-ce pas touchant? Est-ce que ça ne réconcilie pas un peu avec l'humanité? Si cette bonne volonté existe, oui, tout est possible, même le meilleur. C'est une question, une simple question de démarche finalement, de liberté, de générosité. À un moment donné, simplement, quelqu'un a fait ce qu'il pouvait, voilà. Et ça change tout. Aucun de ces gestes finalement n'est grand-chose, et pourtant, comment ne pas y voir une impulsion essentielle qui peut vraiment changer la face du monde? Comment ne pas y reconnaître ce souffle de vie, finalement, qui ressuscite les morts? Comment ne pas y voir qu'à un moment donné, quelqu'un qui fait ce qu'il peut, qui le fait sans y être obligé, par grâce, sans peur du ridicule, comment ne pas y reconnaître l'élan de vie qui a créé le monde? Cette humanité si touchante, elle s'est exprimée ce jour-là aux pieds de Jésus avec un peu de parfum et ça l'a touché. Ça lui a donné, je crois, du courage. Et en mettant en avant la mémoire du geste de cette femme, le Christ nous invite à voir que l'Évangile n'est pas seulement le regard de Dieu sur le monde, finalement, que l'Évangile, ce n'est pas simplement de la théologie pour nous dire la bonté, l'amour de Dieu pour chacun de nous, le pardon de Dieu, mais que l'Évangile, c'est ce regard que nous pouvons avoir sur le monde avec Dieu, un regard émerveillé qui aime le monde, qui aime l'humanité comme capable de vrais bons gestes. L'Évangile, c'est qu'en vérité, le monde est beau. C'est que l'humanité est profondément touchante. Tel est le regard que Dieu a sur le monde, et ce regard est un regard vrai, un regard en vérité. Pour s'en rendre compte, il suffit d'ouvrir un peu les yeux et de regarder, de saisir, comme Jésus nous y invite ce matin, la lumineuse beauté d'une personne qui, à un moment donné, fait tout simplement ce qu'elle peut et invente un geste qui embellit la vie des autres, la vie d'au moins quelqu'un d'autre. Et pourtant, les disciples ont raison, le geste de cette femme est non seulement un peu ridicule, mais en plus parfaitement discutable. Quel gaspillage, ce parfum hors de prix, quasiment une année de salaire pour mettre sur les pieds ou sur la tête de Jésus. Alors que Jésus n'était apparemment pas tellement du genre à se poudrer et à se parfumer. Mais en critiquant ainsi cette femme, eh bien les disciples s'aigrissent encore un peu. Ils passent à côté de la beauté de la vie. Ils passent à côté de l'évangile vécu qui consiste à reconnaître, à voir, à se laisser émerveiller par la tendresse de cette femme. Tendresse qui est un éclat de la tendresse de Dieu pour nous. Et d'avoir ce regard qui est finalement le regard de Dieu sur le monde, le regard qu'il a sur l'humanité, qui saisit la beauté, la moindre beauté du moindre petit geste, qui saisit l'intention belle. Alors pour Jésus, le geste de cette femme, oui, a pu être important, décisif. L'humanité n'est pas si mauvaise après tout, ou elle ne l'est pas seulement mauvaise. Elle n'est pas totalement mauvaise, mais l'humanité est adorable. Tout n'est pas perdu, tout est possible. Et donc ça vaut le coup de se dévouer pour cette humanité. Oui, cela vaut le coup de faire ce que l'on peut. Le geste de cette femme est surprenant, il est libre, il était absolument imprévisible. Ce geste est porteur d'une naïve tendresse qui s'exprime comme elle peut. Ce geste, c'est sans doute un hommage à ce qu'elle a reçu du Christ. Elle a reçu de lui quelque chose qui n'est pas dit, mais qui a dû être important. Quelque chose qui lui a donné cet enthousiasme, cette volonté d'inventer quelque chose et de faire un geste malgré les ricanements des autres, malgré les convenances, malgré les aigris de toutes sortes, malgré les jugeurs, les donneurs de leçons. Elle a reçu du Christ quelque chose qui l'a rendue plus vivante, plus créatrice, plus libre. Elle a été à ce moment-là porteuse d'émerveillement et de tendresse, oui. Le Christ l'a déjà ressuscité. Cette femme a pu faire que Jésus croie alors en la résurrection. Que Jésus sache que par sa vie, tout n'est pas perdu, mais que par sa vie, eh bien, l'humanité peut changer un peu. Que sa vie n'est pas ratée. Que quelque chose de son message, de son action va pouvoir être entendu et que oui, le monde va pouvoir avancer. Que ces gestes de tendresse, de bonté, de liberté vont pouvoir se multiplier, faire boule de neige. Cette femme a eu pour lui un geste de reconnaissance et de tendresse. C'est peut-être possible de vivre sans recevoir aucune reconnaissance des autres et aucune tendresse. Mais c'est dur, je crois. C'est une souffrance. C'est une croix pire que la croix et les clous. Jésus a été sensible à cette reconnaissance et à cette tendresse. Et cela lui a fait du bien à ce moment difficile pour lui. Même quand on est Jésus-Christ, on n'est pas un pur esprit. Ou justement, quand on est Jésus-Christ, On n'est pas un pur esprit car on est un homme en communion avec Dieu et donc un homme ayant besoin, comme chacun d'entre nous, de reconnaissance et de tendresse. Alors l'apôtre Paul a dit que parfois en exerçant l'hospitalité, on pouvait recevoir un ange sans le savoir. En fait, cela arrive plus souvent qu'il ne semble, mais parfois aussi avec un geste de reconnaissance et de tendresse de notre part, un petit geste fait comme on le peut, eh bien nous pouvons aider une personne à être assez forte pour accomplir sa vocation. Eh bien peut-être que ce jour-là, cette femme, avec un petit geste, elle a été l'ange qui a permis au Christ d'être le Christ. Ce jour-là, Jésus de Nazareth a reçu peut-être la force d'aller au bout de sa mission de Christ, grâce à un geste un peu ridicule, certes, un peu fou, mais qui disait la reconnaissance et la tendresse. Et il va alors arrêter de se cacher, arrêter de fuir, arrêter de, finalement, différer sa vocation. Et il va pouvoir avoir le geste ultime où il fait ce qu'il peut. L'importance qu'a eu le geste de cette femme pour Jésus mériterait donc à lui seul qu'on se souvienne d'elle. Mais je crois qu'il y a plus encore que cela dans ce geste. Il est comme un mode d'emploi bien utile qui doit accompagner l'évangile du Christ. Alors c'est comme pour un four à micro-ondes, l'essentiel bien sûr c'est la machine elle-même quand même. Mais elle n'est pas vendue sans un manuel qui explique comment s'en servir et ce qu'il ne faut pas faire avec cette machine. Par exemple, nous précise tous les manuels, vous pourrez vérifier en rentrant chez vous, bien qu'en général on ne lise pas le manuel du micro-ondes, mais il rappelle qu'il ne faut pas s'en servir pour réchauffer son enfant quand il a froid, parce que la chaleur de four à micro-ondes n'est pas comme les autres chaleurs. Bon, ça doit peut-être être précisé. Eh bien, Jésus nous dit que l'Évangile doit être annoncé avec le geste de cette femme, avec la mémoire du geste de cette femme, et je crois qu'on peut y voir, dans un sens, un mode d'emploi de l'Évangile. En effet, l'annonce de la mort et de la résurrection du Christ, ces annonces peuvent être mal comprises, comme un four à micro-ondes peut être mal utilisé et être source de mort. La mort de Jésus a pu être aussi comprise comme un mépris du corps, un détachement de la vie en ce monde, ou même quasiment un suicide, un encouragement à l'ascétisme, à se priver de tout, comme si ça faisait plaisir à Dieu, comme si ça grandissait l'âme, finalement, de se priver des plaisirs de ce monde ou des joies qu'offre la vie en ce monde. Ou encore, ça a pu conduire à considérer que Dieu prendrait plaisir ou aurait eu besoin des souffrances du Christ, que c'était nécessaire pour qu'il puisse pardonner à l'humanité nos fautes innombrables et terribles. Ces interprétations sont manifestement contraires à l'évangile du Christ, à ce qu'il a dit, à ses paroles. Mais il y a toujours, bien sûr, un malheureux pour trouver un verset ou deux dans un coin de l'Écriture pour justifier à ses yeux l'idée du sacrifice expiatoire du Christ sur la croix ou le mépris de la vie en ce monde ou je ne sais quelle encore choses horribles. Eh bien non, nous dit l'Évangile, nous dit cette femme, Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance, il ne prend plaisir à aucune souffrance. Dieu veut que la vie en ce monde soit belle, joyeuse, libre, parfumée. Mais Jésus affronte un dilemme terrible, finalement, pour faire accomplir sa mission, celui de devoir choisir entre deux excellentes dimensions de la vie humaine, la dimension de la chair, du corps, et la dimension de l'esprit, de l'amour, du spirituel. Et Jésus comprend qu'il va devoir maintenant choisir entre les deux. Il sent qu'il va choisir de privilégier l'esprit, le spirituel, l'amour, sa mission, de témoigner de cela. Il sent qu'il va devoir sacrifier son corps, et cela est un drame, mais comment faire autrement pour lui, ce jour-là, puisque puisque d'autres personnes, non pas Dieu, mais d'autres personnes ont choisi de le placer devant cette alternative. Renonce à ton message, renonce à ta mission, sinon on te prend la vie. Alors c'est vrai qu'en allant au bout, il témoigne de l'amour infini de Dieu pour chaque personne, d'un amour qui change tout, d'un amour qui va jusqu'à aimer le moindre des pécheurs, l'amour de ce monde, de la vie en ce monde. Alors c'est bien l'Évangile dont il témoigne ainsi, en donnant son corps, en donnant sa vie biologique, mais comment faire pour que ce sacrifice ne passe pas pour un mépris de la vie en ce monde, que ça ne passe pas pour un suicide? Comment faire pour que les générations suivantes qui entendront ce récit, qui verront ces croix, ne pensent pas que le corps n'est rien, que le corps doit être sacrifié, que notre vie en ce monde ne vaut pas tripette finalement, qu'il est bon de la sacrifier ou de la mépriser ou que ce n'est pas important? Eh bien, ce serait une catastrophe parce que c'est faux. L'Évangile, c'est justement l'inverse. L'Évangile, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a été prêt à tout donner pour que la vie soit belle en ce monde, que nous vivions dans ce monde et que nos élans de tendresse, nos humbles gestes de bonne volonté soient possibles, que Dieu aime finalement l'odeur d'un parfum offert, qu'il en est infiniment ému et touché, qu'il aime ces repas offerts pour accueillir quelqu'un, pour manger ensemble à table et se réjouir, comme on le voit le Christ dans la maison de Simon le lépreux. Jésus aime Dieu, il aime l'amour de Dieu pour nous, il aime finalement la vie aussi, il aime les gens. Il aime manger avec eux, discuter, convaincre, se laisser parfois aussi convaincre. Il aime donner un coup de main, il aime faire ce qu'il peut, voilà, guérir quelqu'un quand il le peut. Il aime avoir un geste aussi de reconnaissance et d'amitié pour cette femme, pour sa mère à la croix, pour Jean, son ami. Bref, oui, l'Évangile, c'est que la vie est faite pour être belle, les uns avec les autres, les uns par les autres. Et que Dieu veut notre bonheur et notre joie en ce monde. Mais comment donc faire pour que le sacrifice du Christ ne soit pas source de mort, mais seulement de vie? Eh bien, cette femme soulage le Christ de ce dilemme. Son geste, le geste de cette femme, est un témoignage de l'importance qu'a pour elle cette vie qu'il va devoir sacrifier, sa vie biologique. Jésus a besoin que ce message, le message de cette femme, soit entendu. C'est un complément indispensable à son propre témoignage à lui. L'ensemble des deux témoignages, le sien sur l'importance du spirituel et celui de cette femme sur la beauté de la vie en ce monde, les deux messages se complètent magnifiquement. Et alors, oui, c'est la vie que Dieu veut. Lui, le Christ, apporte sa part essentielle d'Évangile, la primauté de la grâce de Dieu. Primauté de la grâce de Dieu sur toutes les autres réalités, même les plus douloureuses et les plus pécheresses. Et elle, cette femme anonyme, montre l'importance de la vie en ce monde, l'infinie beauté de la vie en ce monde. C'est pour faire mémoire de la beauté de la vie découverte en Christ que trois autres femmes, Marie-Madeleine, Marie et Salomé, et nous à leur suite, nous avançons le matin de Pâques dans la louange pour rendre gloire à la vie du Christ, à la vie du Christ ressuscité. Amen.